soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Le monde au féminin.
Hey you, over there. Please don't waste my time with that stare. Don't be looking, this piece is rare. I'm too cool for school, I know it's not fair.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, Le monde au féminin.
Parole de femme.
Tina Salama, vous êtes porte-parole du président congolais Félix Tshisekedi. Merci beaucoup d'être avec nous dans Le Monde au féminin de VOA Afrique.
Merci beaucoup Nathalie d'avoir pensé à moi dans ce beau écran magazine Le Monde au féminin.
Un grand merci. Alors on va commencer par votre parcours quand même impressionnant bien entendu. Vous avez donc fait du journalisme hein, mais de manière très professionnelle. Vous sortez des grandes écoles. Un petit mot là-dessus.
Merci.
Sur votre parcours qui vous a amené un petit peu jusqu'ici. Quoi.
Alors moi j'ai commencé dans la partie est du pays, l'université je veux dire, hein, mais c'était vous savez c'est une zone en proie aux conflits armés depuis des très longues années, donc je n'ai pas pu finir mes études malheureusement parce qu'il y a eu la guerre, j'ai dû arrêter et donc j'ai commencé à travailler très tôt. Là je faisais la communication, je me suis arrêtée en deuxième année et donc il y a eu la mission onusienne qui est venue hein, pour, dans le cadre de maintien de paix, la MONUSCO, donc j'ai commencé à travailler là, ils ont créé une radio, j'ai commencé à travailler à la radio Capi sans avoir terminé mes études et puis après j'ai été transférée à Kinshasa pour renforcer le desk Swahili, comme je parle bien Swahili et donc là je me suis rendue compte que j'avais des collègues qui venaient de partout dans le monde. Vous pouvez avoir un collègue qui vient du Kazakhstan, de New York, de Dakar, partout dans le monde. Et il y en avait qui évoluaient très bien professionnellement et tous me disaient, mais Tina, il faut que tu finisses tes études, tu as beaucoup de talent en journalisme et tout ça, mais sans diplôme, ça va être très difficile. Et donc, j'ai continué mes études à l'école de journalisme de Kinshasa, l'IFASIC. Mmh. En ce moment-là, j'étais enceinte de ma fille et donc, c'était pas évident de tout combiner. J'avais un gros ventre comme ça, je vais conduire seule pour aller à l'école, je finissais l'école, l'université, je courais à la radio parce que j'avais des émissions à préparer, c'était vraiment pas évident. Et donc, j'ai fini quand même, j'ai pu avoir une licence en journalisme politique étrangère, donc bac plus 5. Après, j'avais d'autres ambitions. Je me suis dit, non, je ne peux pas quand même arrêter Radio Capi. J'avais d'autres ambitions d'aller peut-être en expatriation, dans d'autres missions des Nations Unies. Et donc, j'ai continué. J'ai fait un Master 2 en management des médias à l'école de journalisme de Lille, hein, qui est parmi les meilleurs en termes de formation des journalistes dans le monde. Et donc, c'est vraiment intéressant hein, comme parcours avec d'autres étudiants africains, malgaches, hein, donc vraiment de partout. Ils ont créé un programme comme ça qui était assez intéressant. Donc, j'ai pu avoir mon Master 2. Je ne me suis pas arrêtée là. Récemment, j'ai fait l'école de stratégie militaire et renseignement. Ça s'appelle CHES. C'est un collège. Au départ, c'est pour les officiels, c'était pour les militaires. Et donc, ils ont intégré les civils. Mm-hmm. Et voilà, j'ai la quatrième promotion.
C'est où, c'est à Kinshasa?
C'est à Kinshasa. Uh-huh. C'est quand même une
et
grande...
Et qu'est-ce qu'on y apprend là-bas, alors?
Ah, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vraiment, sur les structures sous-régionales, par exemple, la CEAC, la SADEC et tout ça. La politique de défense, les renseignements dans toute la sous-région. Parce qu'on a des étudiants qui viennent du Congo Brazzaville, du Gabon et tout ça. Donc j'ai pu avoir mon diplôme l'année passée et je pense que pour l'instant, côté études, je vais quand même reposer.
Voilà. Vous avez déjà ce qu'il faut en effet, ouais. Et le féminisme alors, c'est venu comment? Vous êtes féministe ou pas?
Je soutiens la cause des femmes. Féministe, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on sort ce mot-là, ça devient pas péjoratif, mais il y a des gens qui le comprennent très mal.
Voilà. Faut l'expliquer parce que ce n'est pas du tout un terme péjoratif.
Pas du tout. Je pense qu'il faut juste bien l'expliquer. Et moi, je défends vraiment la cause des femmes partout où je passe. Je tiens à ça. J'ai même créé des émissions, des magazines à la Radio Capi, hein, où j'ai passé, je crois, 15 ans où j'ai passé à la Radio Capi. C'est moi qui étais la première à créer une émission qui donnait la parole aux femmes. Mais vraiment avec beaucoup de rubriques comme ça où les femmes de toute catégorie ou domaine pouvaient s'exprimer librement, qu'elles soient maraîchères, qu'elles soient politique, ce que vous voulez. Mm-hmm. Et je suis conférencière, donc je parle beaucoup aux jeunes filles. J'aime surtout vraiment cette cible-là. Je vais dans des universités parler aux jeunes filles, leur dire, vous pouvez croire en vous, vous devez vous battre, et je donne mon exemple, mon parcours et tout ça. Donc je discute beaucoup de ces questions-là.
Nas à la main, hormis vos compétences, on a bien compris, vous êtes bardé de diplômes, les compétences, vous les avez, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que vous avez été choisi dans le job que vous faites aujourd'hui auprès de la présidence, aussi pour votre image, l'image que vous pouvez véhiculer en tant que femme, en tant que jeune femme, extrêmement dynamique? Est-ce qu'on veut rajeunir un petit peu le gouvernement congolais, par exemple?
Je pense que c'est une question intéressante qui mériterait d'être posée au président de la République. Comme ça, il vous dira
qu'elle... Vous lui poserez.
Je lui demanderai quels ont été ses critères. Mais je pense qu'il y a un peu tout ça, la féminisation, le rajeunissement. C'est quand même important de prendre des jeunes femmes qui ont peut-être des ambitions, qui représentent quelque chose, qui inspirent toute une autre jeune génération. Je crois qu'il y a tout ça, mais peut-être sans beaucoup de prétention, j'avais ce profil-là. Mais c'est vrai que moi, je l'ai reçu, je le connaissais pas avant, j'étais pas du tout politique, ni dans les partis politiques et tout ça. Donc j'ai rencontré les présidents de la République dans les cadres de mes activités professionnelles. J'étais devenue manager après autant d'années à la Radio Capi, donc je supervisais des magazines et tout ça. Donc je l'ai invité dans une émission politique, et je pense qu'il a vu peut-être mon professionnalisme, il a été touché. Quelques mois après, il a fait appel à moi. Il avait déjà un porte-parole, un ancien journaliste, Kasson Gumuma Yambayamba, paix à son âme, il est décédé. Très connu dans le pays, dans le monde médiatique. Et c'était lui le porte-parole. Mais le président a dit, je veux une femme aussi. Je veux une femme comme porte-parole. Et c'est une première, ça n'a jamais existé.
Ah, voilà.
La présidence de la République d'avoir une femme porte-parole. Et donc, il s'est souvenu de moi. Tiens, Tina Salama, Radio Capi. Et donc, on a été me chercher. C'est comme ça que j'ai été la seconde ou l'adjointe de monsieur Kasson Gumuma.
Alors, est-ce qu'il est entouré d'une équipe justement qui est assez féminine, notamment, vous pouvez citer d'autres noms, par exemple Nicole Boitia, entre autres, j'imagine.
Absolument. Ouais. Il est très féministe, notre président de la République, ça c'est connu. Même à l'hôtel, quand il partait, il y a eu beaucoup de femmes. Il y avait des Sénégalaises qui disaient, on aime beaucoup votre président et tout ça, parce qu'il soutient les femmes. Je pense que sa réputation va au-delà de nos frontières. Quand il était président de l'Union africaine, il a eu une reconnaissance de ses pairs comme champion de la masculinité positive. Nous étions le premier pays où, sous la présence de Félix Tshisekedi, à mettre en place la masculinité positive. Donc on a mis des chefs d'État, il y a même eu des accords, ils ont signé pour pouvoir, en étant des hommes en tout cas, comment ils peuvent soutenir cette cause des femmes. Et donc il y a eu 7 chefs d'État qui sont déplacés, et donc lui a été désigné par ses pairs comme champion de la masculinité positive. Alors il a mis autour de lui en tout cas, il y a des postes clés, des postes très importants, stratégiques, qui sont occupés par des femmes. Et à chaque fois on se rend compte que c'est une première. C'est quelque chose qui n'avait jamais existé par le passé. Il y a une conseillère spéciale. Il y en avait deux, deux femmes conseillères spéciales. Madame Boitia dont vous parlez, qui est en ce moment directrice de cabinet adjoint. Aujourd'hui, au pays, notre gouverneur de la Banque centrale, c'est une femme. C'est une première aussi, ça n'avait jamais existé. Il y a quelque temps, au Parlement, il y avait une femme qui était présidente de l'Assemblée nationale. Dans le gouvernement, il y a eu tellement des femmes ministres et tout le monde reconnaissait que c'était une première. On est, je crois, peut-être à 27% des femmes qui occupent des postes. Ouais. C'est pas assez, mais nous venons d'où? D'où est-ce que nous venons? Voilà, c'est ça. Et une grande avancée, ça progresse. Là, c'est pratiquement à 100%.
Ouais.
On continue et il se bat pour ça, il a dit, surtout aux partis politiques, de pouvoir intégrer des femmes pour qu'au Parlement aussi, par exemple, on puisse avoir qu'il y ait ce quota-là dans chaque parti politique.
Qu'à l'Assemblée nationale, ça traîne un petit peu plus.
Absolument.
Ça a du mal à décoller. Je ne sais pas si j'ai des bons chiffres. Moi, j'ai 13% à l'Assemblée nationale.
Oui, c'est encore très bas.
Sénat, une vingtaine de pourcents. Alors, on a toujours un petit problème de représentation, aussi bien en tant que candidate, etc. On a cité tout à l'heure Madame Boitia, qui lutte beaucoup pour la parité aussi en politique.
Exactement.
Est-ce que vous, ça, c'est un problème qui vous interpelle vraiment, ça?
Oui, absolument. Mais les problèmes sont tellement complexes. C'est que, d'abord, il y a les mentalités qu'il faut changer. Pourquoi on ne vote pas femme? Parce que si aujourd'hui au Parlement, il n'y a pas cette femme, mais c'est à qui la faute? Ce sont les électeurs. Il faut sensibiliser les électeurs à pouvoir choisir une femme.
Oui, mais après, il y en a 53%, ça veut dire qu'elles ne votent pas beaucoup pour les femmes.
Et les femmes ne votent pas pour les autres femmes. Ça, c'est quand même un problème. C'est incroyable qu'on ne puisse pas se faire confiance. Donc le problème, il est à plusieurs niveaux. Et quand on demande, par exemple, à ceux qui gèrent ou tiennent les partis politiques, ils vous disent « elles ne s'impliquent pas beaucoup non plus en politique ». On n'a pas beaucoup de femmes personnes qui viennent dans les partis politiques, et donc du coup on ne peut pas les envoyer juste comme ça pour faire un quota, pour faire joli. Il faut bien qu'elles puissent s'impliquer davantage, qu'elles viennent, qu'elles participent comme les hommes. Alors les femmes ont des contraintes, elles disent que bon oui, nous avons peut-être les ménages, nous avons les maris, les enfants, nous gérons beaucoup de choses, on ne peut pas venir par exemple, vous pouvez rester prendre un verre, discuter politique jusqu'à minuit. Une femme ne peut pas le faire ça. Donc, mais ce qui est quand même intéressant, c'est que quand vous voyez comment ça avait commencé, il y a quelques années, aujourd'hui, on sent qu'il y a cet éveil hein, de la femme. D'abord, on sensibilise les autres femmes à être solidaires, à se dire, on n'est déjà pas assez bien représentées, qu'on se mette ensemble pour qu'on puisse être dans les sphères de prise de décision déjà, pour qu'on puisse voter, pour qu'on puisse soutenir une femme quand il y a une femme candidate, que d'autres femmes puissent être derrière pour la porter. Et celle qui est arrivée quelque part, qu'elle puisse aussi se dire, je ne vais pas rester comme une, vous voyez, dans le monde des abeilles, il y a la reine, elle est toute puissante, elle est grande, tous les autres tournent autour d'elle, travaille pour elle et tout ça. Donc non, on veut qu'il y ait cette femme qui puisse aussi...
Qui soit une sorte de mentor.
Absolument, mentor, qu'elle puisse tenir la main à d'autres femmes, à d'autres jeunes filles, les propulser, les aider. Et c'est comme ça qu'on va tisser notre toile et on va vraiment aller de l'avant.
Dina Salamin, alors justement, est-ce qu'il y a des programmes en particulier que vous pourriez citer ? Par exemple, on parle beaucoup d'autonomisation de la femme et c'est ça qui va vraiment, on l'imagine, redresser toute l'économie de l'Afrique, du continent entier, parce qu'on voit à quel point ces femmes, elles travaillent,
oui,
elles se donnent.
Elles se donnent à fond, l'économie est vraiment informelle, je pense à 60% ou si plus hein,
que ça,
plus
ouais.
que ça, 70% de notre économie est informelle. Et on voit vraiment les femmes, elles sont très dynamiques. Moi, j'aime bien un exemple, les femmes qui se lèvent, qui nourrissent Kinshasa. Quand j'étais journaliste, on avait fait un très beau reportage sur ces femmes et c'était des femmes soit maraîchères, soit ces femmes qui se réveillaient à 4h du matin pour aller acheter du pain dans une grande boulangerie de la place et de revendre ça à ceux qui se réveillaient tôt le matin et tout ça. Elle laisse mari à la maison encore en train de dormir, des enfants, mais elle va chercher du pain ou d'autres qui vont chercher les légumes pour aller vendre dans le marché. Donc il faut vraiment maintenant essayer de réguler tout ça, leur donner des moyens pour qu'elles deviennent autonomes et tout ça. Mais il y a aussi un autre problème, c'est l'éducation. L'éducation, il faut que la femme soit éduquée pour qu'elle connaisse ses droits, pour qu'elle sache qu'elle a les mêmes droits, donc qu'on puisse mettre fin à ces inégalités. Donc je pense que moi, d'abord, la clé serait l'éducation. Il y a eu un moment, effectivement, dans beaucoup de pays africains, peut-être le nôtre aussi, où on pensait que les jeunes garçons méritaient mieux d'être instruits ou d'aller à l'école que la jeune fille. Et donc il y a vraiment eu beaucoup de campagnes pour dire la jeune fille aussi à l'école. Ça évolue très bien. Il y a eu une grosse campagne qui a été soutenue par l'UNICEF, toutes les filles à l'école, et ça, ça a vraiment réveillé. Et puis ce qui est bien maintenant aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, il a mis en place la gratuité de l'enseignement. Parce que les parents disaient, on n'a pas les moyens d'envoyer nos enfants à l'école. Mais avec la gratuité de l'enseignement, beaucoup ont envoyé et garçons et filles à l'école. Vous ne payez plus, donc il n'y a plus de prétexte. Et puis il y a beaucoup de sensibilisation aussi qui doit suivre. Parce qu'il faut aller dans les endroits reculés pour dire à ces parents-là, donnez la chance à votre enfant. Une fille, ne pensez pas que sa vie s'arrête au mariage. Et puis il y a des mariages précoces avec tout ce qu'il y a comme conséquences. Donc cette question aussi évolue, mais vraiment on devrait miser davantage sur l'éducation pour pouvoir réduire les inégalités.
Le monde au féminin de VOA Afrique, une émission taillée sur mesure pour toi à travers le regard des femmes et des jeunes.
Vous avez dit tout à l'heure, le président Félix Tshisekedi, il est féministe, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il met vraiment en pratique des programmes auxquels il croit ? Est-ce que vous avez ce sentiment-là au niveau du gouvernement et qu'il puisse vraiment avoir des retombées particulières ?
Il y a l'Assemblée qui doit légiférer. Donc s'il y a des lois, c'est d'abord à l'Assemblée nationale. Il n'a pas de pouvoir. Vous savez, il y a séparation de pouvoir. Hein. Il y a différentes institutions, donc il ne peut pas être partout et dire... C'est même ça que je vous disais. Il a demandé s'il pouvait en tout cas exiger qu'il y ait un quota femme. Pour chaque élection, il le ferait. Mais là, ce sont les partis politiques. Mais il en parle quand même. Mais lui, ce qu'il peut faire, on a vu. Parce que quand il y a eu remaniement, les derniers, quand on lui proposait des noms, il a rejeté... Parce que, vous savez quoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de femmes et des jeunes. Donc il insistait. Quand les partis politiques envoyaient leurs candidats pour occuper tel poste, lui disait, eh ben non, vous me proposez une femme. Il y a vraiment eu des grosses discussions
Alors, est-ce que les autres suivent? Parce que quand on a un chef de l'État qui est comme ça, est-ce que l'équipe autour, est-ce que les politiciens autour, vous savez, ceux-là qui sont là depuis quelques décennies, etc. Bon, c'est pour ça, on imagine qu'on renouvelle les gouvernements, qu'on prend un petit peu la jeunesse, mais est-ce que ça suit derrière?
Ça commence à suivre parce que déjà, la femme elle-même, elle se sent valorisée. Ils se disent, ah, nous avons un président qui est genré. Et donc, les femmes sont plus audacieuses, elles osent postuler, elles osent aller de l'avant et se dire, compétir.
Elles sont plus confiantes.
Elles sont plus confiantes. Et les autres aussi, les chefs d'autres institutions se disent, ah bah tiens, on doit suivre quand même comme le chef de l'État. C'est vrai que c'est encore difficile pour certains, ils ont encore du mal. On sensibilise, mais on sent quand même qu'il y a une évolution sur ces questions-là.
Salama, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est votre région à vous, c'est votre zone. Vous êtes du Sud Kivu, n'est-ce pas? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez grandi là-bas. Si on doit faire le point sur la situation, non pas seulement des femmes, mais des populations là-bas, on entend des choses tous les jours, ça nous crève le cœur, vraiment. Ces gens dans des villages qui se font tuer, massacrer. Comment se fait-il qu'on en soit encore là aujourd'hui? Pourquoi on n'arrive pas à régler ce problème?
Écoutez, d'abord parce que le Congo est un pays très riche, immensément riche. Ce sont nos minerais qui devraient nous aider à nous développer, à aller de l'avant, à faire un Congo grand, prospère, comme le rêvait Lumumba et tous les autres. C'est aussi ça notre, comment on dit, talon d'Achille. C'est aussi ça qui nous crée des problèmes. La situation dans laquelle nous sommes en ce moment, c'est à cause de nos richesses. Mais voilà, on espère que cette fois-ci, vraiment, on va arriver à mettre fin à ce cycle infernal de violence, des conflits. Alors moi, je suis particulièrement touchée par tout ça parce que, comme vous le dites si bien Nathalie, moi je suis née là-bas et j'ai écrit un livre, Ma vie pendant la guerre. Et donc là, je raconte vraiment comment j'ai vécu.
Vous retracez combien d'années à peu près?
J'ai raconté comment, d'abord, l'arrivée des réfugiés rwandais, ceux qui fuyaient la guerre au Rwanda. C'était en 1994, quand il y avait les un flux de réfugiés rwandais qui ont fui les génocides au Rwanda.
Vous étiez toute jeune.
J'étais toute petite, tout ça.
Ça doit être terrible de connaître la guerre quand on est jeune.
C'est horrible. Et donc, il y a d'abord eu ce flux-là de réfugiés. C'était impressionnant. On n'avait jamais vécu ça. On avait une jolie petite ville, Bukavu, à l'est du pays. On l'appelait la Suisse du Congo. Verdure, un très beau pays. Un beau climat, on vivait très bien, paisiblement, et tout a basculé. Et puis il y a eu déjà la première guerre, l'entrée de l'AFDL avec Laurent Désiré Kabila, qui sont venus pour libérer le Congo. Donc il est venu avec des armées rwandaises, ougandaises, burundaises dans la partie sud du pays, vers Uvira par là. Et donc c'était vraiment les vraies premières détonations obus qui tombaient, ça je m'en souviens. Chez nous, on n'avait pas eu le temps de faire des provisions, quoi que ce soit. On nous racontait que les villes tombaient, d'abord celle de Uvira et tout ça, on s'est dit ça va pas arriver ici.
Ça doit être effrayant.
C'est effrayant, moi je me rappelle les premiers obus, je l'ai même dit dans mon livre, coupure de courant, on est là... 9 enfants, mes parents et les cousins de mon père qui étaient venus, qui avaient fui la guerre d'Ouvira. Et donc, sans courant, on est tous à terre comme ça. Et je vois comme une bombe. On entend un boum et puis on est couchés les uns sur les autres. On se demande, mais lui, il pense à quoi? On ne pleurait plus, je pense. Vous avez trop peur, vous ne pleurez plus. Et puis, on vit sur des obus.
Est-ce qu'il y a un traumatisme qui reste?
Forcément, mais je pense qu'il y a tellement... Quelqu'un disait, peut-être à tort, qu'en Afrique, on a tellement de problèmes où il y a tellement de traumatismes qu'à un moment, ça devient un peu comme notre quotidien. On vit avec... Pas parce qu'il n'y a pas de psychologue, je pense qu'il y en a. On n'y pense pas peut-être parce que... Je ne sais pas, mais est-il que... Quand je me suis mise à écrire, en fait, j'ai commencé à écrire. Pourquoi? Parce que des années après, je me suis rendu compte que ma vie a quand même pris a très bien décollé. Ce qui n'était peut-être pas le cas de d'autres femmes, d'autres jeunes filles de mon âge qui avaient vécu la même chose que moi. Il y a des familles qui avaient été décimées parce que au lendemain, par exemple, de tout ça, on se réveillait le matin, il fallait aller chercher à manger. On vous disait que telle famille a été décimée, tel garçon est mort parce qu'il a reçu une balle dans la tête. C'était horrible. Donc beaucoup n'ont pas eu cette chance. Et puis moi, je me suis vue évoluer, travailler aux Nations Unies. Et un jour, je suis cadre. Je dirige une grosse équipe dans une grosse rédaction. Et puis, il y a quand même des nouvelles qui arrivent de nos différentes stations, notamment cette zone de l'Est-là. Et je me suis rendu compte que c'est toujours les mêmes choses. tuerie, ouais. viol.
Alors justement, aujourd'hui c'est encore la même chose. Alors comment vous le vivez ça?
Et aujourd'hui c'est encore la même chose et tout ça. Et c'est pour ça que moi je dis quand même. Et dans mon livre, je pense que c'était une sorte de d'encouragement à ces jeunes, surtout aux jeunes filles.
Oui, vous l'avez écrit en 2021.
En 2021, ça. Voilà. Mais c'est quelque chose que j'avais en tête depuis très longtemps. J'avais commencé, je pense, quand j'étais encore à la Radio Capi, aux Nations Unies, quand je me suis vue très bien partie. Mais les nouvelles sont toujours les mêmes.
Salamin, votre livre, forcément, vous le vendez, mais est-ce que vous avez des programmes, par exemple, pour le faire lire dans les écoles, ou je ne sais pas, que ces jeunes
Absolument.
Filles puissent y accéder, celles qui n'ont pas les moyens de le lire ou de l'avoir?
Absolument. Je voulais même le rendre gratuit. Je suis en train de rééditer, parce que j'ai changé de maison d'édition, ça qui m'a bloqué. En fait, je ne l'ai même pas fait pour de raisons pécuniaires et tout ça. Non. Je voulais vraiment que les gens connaissent cette histoire-là, mais racontée, pas par les journalistes, voilà, mais par quelqu'un qui a vécu ça, une jeune fille de peut-être 15 ans à l'époque qui a, voilà, je raconte juste mes souvenirs. Je donne mes perceptions, mes observations de ce moment-là. Et effectivement, je voulais vraiment le rendre gratuit. Je pense que quand je vais le rééditer, ça va être ça. Parce que beaucoup m'ont sollicité dans ce sens-là. On me dit, il y a des zones, par exemple, comme Kinshasa, beaucoup de gens entendent parler de la guerre à l'Est, mais vraiment de manière très...
C'est loin.
Alors, si y a ce livre-là, où vous racontez votre expérience, on vous connaît aujourd'hui. Peut-être que beaucoup de gens ne savent pas et peut-être qu'ils vont essayer de se représenter ou de mieux comprendre.
Un livre qui pourrait être intégré dans un programme
je l'espère. Bien, je croise les doigts, ce serait vraiment quelque chose pour moi.
Tina Salamin, pour terminer, un mot pour, pas seulement pour les Congolaises, pour toutes les Africaines finalement, parce qu'elles nous écoutent toutes sur le continent, pour les encourager un petit peu, parce que vous êtes vraiment pleine de dynamisme et
Merci.
J'imagine que grand nombre de femmes vous envient et voudraient suivre vos traces. Pas seulement les jeunes filles, pas seulement les petites filles, mais les dames qui ont déjà un certain âge aussi et qui n'ont pas encore fait le pas, parce qu'il y a la culture qui les freine, parce qu'elles n'ose pas, parce qu'elle pense ne pas pouvoir, etc. Pour toutes ces raisons dont vous avez parlé tout à l'heure.
Je pense que les femmes, aujourd'hui, on a prouvé qu'on est en mesure de faire tout ce que les hommes font. Et comme je le dis tout le temps, notre cible ne sont pas les hommes, c'est les systèmes, les mentalités, la religiosité. Il y a beaucoup qui pensent que c'est la religion qui veut que la femme soit, c'est pas vrai. Chose, c'est que les femmes devraient se soutenir. Il y a quand même ce problème-là de soutien, de manque de solidarité féminine. Les femmes, elles ne se soutiennent pas beaucoup. Celle qui a réussi, elle veut rester seule. Là, le complexe de l'abeille, de la reine qui veut dominer toute seule. Il y a un proverbe que j'aime bien. Une fleur ne pense pas à compétir avec la fleur qui est à côté d'elle. Mmh. Elle ne pense qu'à... C'est bien dit en anglais.
S'épanouir.
À s'épanouir, voilà. C'est beau plutôt en anglais. Je ne sais pas exactement comment c'est dit. Donc, il y a d'abord cette solidarité féminine des femmes. Parce que les défis qui nous attendent de l'autre côté, dans ce milieu d'hommes macho ou the men's world. Des fois, vous vous retrouvez dans un monde vraiment d'hommes où d'autres ne sont pas si méchants. Et c'est juste dans leur tête, ils sont éduqués comme ça. Donc, on doit vraiment se battre. Quand c'est une femme qui a des opportunités, quand c'est une femme qui a un poste, une fonction importante, elle est jugée doublement. On veut, d'abord, c'est quoi son parcours? Qu'est-ce qu'elle a fait?
Est-ce qu'elle est compétente?
Est-ce qu'elle est compétente?
On ne pose pas la question pour un homme.
On ne pose jamais. Moi, je le dis tout le temps, vous allez voir un homme qui est nommé ministre. Il a peut-être été vétérinaire, il est nommé ministre de l'économie. Personne ne va se poser cette question sur son parcours, sur ses diplômes. Mais quand c'est une femme, c'est waouh, tous les yeux sont rivés sur elle, c'est quand même incroyable. Aujourd'hui, il faut se battre. Si on veut qu'il y ait plus ces inégalités, il faut quand même se battre et donner les mêmes chances. C'est ce qu'on demande aujourd'hui, je pense, avoir les mêmes opportunités que les hommes.
Tina Salamin, c'était un grand plaisir vraiment de vous avoir dans Le Monde au Féminin de VO Afrique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je rappelle que vous êtes porte-parole du président congolais, Félix Tshisekedi. On vous dit à très bientôt.
Merci beaucoup Nathalie d'avoir pensé à moi, de m'avoir invitée, à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment. Vous le valez bien, vous le méritez, on peut le faire, on peut y arriver. Alors levez-vous, on se bat et on va bien faire les choses, on va changer ce monde.
Le Monde au Féminin, c'est tous les mardis et samedis à 19h05, temps universel. C'était Nathalie Barge avec vous. À bientôt et bon courage.
Arrête.